De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Et si une guerre d'un nouveau genre se jouait loin des regards, en sous-main, sur les réseaux sociaux et jusque dans les médias traditionnels? Aujourd'hui, les enjeux environnementaux et sanitaires bouleversent la donne et peuvent influencer les politiques, les choix économiques et les modes de vie. Dans ce nouveau monde, l'information et la recherche scientifique sont plus que jamais essentielles et peuvent générer des décisions à fort impact, notamment pour le monde de l'industrie. Dès lors, la vérité scientifique peut devenir un enjeu et être au cœur, au mieux, de controverses, au pire, de polémiques, livrant à l'opinion publique une guerre de positions et d'informations dont il est intéressant de décortiquer la mécanique, les rouages et les stratégies pour se faire sa propre opinion. Mécanique médiatique, science et lobby, c'est le sujet que nous abordons ce soir avec nos quatre invités. Stéphane Aurel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde, auteur du livre Lobitomie, édité à la Découverte, et puis co-auteur du livre Les gardiens de la raison, tout juste paru à la Découverte. À vos côtés, Sylvain Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et maître de conférences à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, auteur du livre Militer pour la science, les mouvements rationalistes en France 1930-2005, un livre paru aux éditions de l'EHESS, et puis vous êtes co-auteur du livre Les gardiens de la raison, paru à la Découverte, co-auteur et avec, on peut le préciser, Stéphane Foucard. Francis Château-Renaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur d'études à l'EHESS et directeur du groupe de sociologie pragmatique et réflexive, auteur du livre Alerte et lanceur d'alerte, un livre paru dans la collection Que sais-je de Humensis, et puis avec nous en liaison téléphonique, Yves Siama, bonsoir. Vous êtes journaliste scientifique, biologiste de formation, spécialiste des questions d'environnement et puis président de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Je précise que vous êtes auteur notamment du livre Le changement climatique, une nouvelle ère sur la Terre, un livre paru chez Larousse. Et puis dans l'œil du monde planète, la journaliste Laurence Caramel nous livrera son choix info de la semaine. Elle nous parlera des éléphants d'Afrique centrale affamés en raison du réchauffement climatique. Bienvenue à tous dans cette émission est dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparée toujours par Anaï Morales avec la complicité de Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, toujours réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir Bernard Laniel.
Martin Pigeon organise des lobby tours pour alerter les citoyens sur leur poids à Bruxelles. Il emmène ses visiteurs allemands découvrir les groupes de pression un à un, premiers à s'être implantés ici, les cigarettiers.
C'est une industrie qui doit vendre un produit qui tue la moitié de ses utilisateurs. Quand on est un industriel qui vend ce genre de truc, c'est pas très simple de convaincre les autorités de régulation de garder le produit sur le marché. Et donc, ils ont été les premiers, en fait, confrontés à la nécessité de capturer les régulateurs. Et donc, ils ont inventé tout un tas de techniques, notamment d'influence de la science, pour entretenir le doute de façon à ce qu'on ne puisse pas interdire leurs produits.
L'une des cibles des lobbyistes, le Parlement européen qui débat et vote les lois. Les députés sont donc largement sollicités, voire bombardés de mails pas forcément subtils.
Voilà un exemple, c'est-à-dire que si vous votez mal, ben on va s'arranger pour voter contre vous. On va déclencher une campagne pour voter contre vous.
Si les visites de lobbyistes au Parlement ne sont pas rendues publiques, à la Commission européenne en revanche, tout est recensé et consultable sur Internet. Thomas Barros-Tasté a ses habitudes ici. Il défend des producteurs de gaz russe comme des fabricants chinois de panneaux solaires. Rien de plus normal à Bruxelles.
Tout le monde fait du lobby. La France fait du lobby, les agriculteurs, les pêcheurs français font du lobby, les profs font du lobby, tout le monde fait du lobby, les journalistes font du lobby. Mais c'est plus la question des moyens, effectivement, qui, à mon avis, est à prendre en considération.
On estime que les lobbies, tout confondus, dépensent 1,5 milliard d'euros chaque année dans leur activité auprès des décideurs européens.
C'était un reportage diffusé sur France 3 le 20 mai 2019, La puissance des lobbies. C'est un sujet que vous connaissez bien, Stéphane Aurel et Sylvain Laurent. Pourquoi ce nouveau livre, Des manipulations de la science et une instrumentalisation à des fins économiques et politiques, avait déjà été dénoncé? Est-ce que on a franchi un échelon supérieur, Stéphane Aurel?
En fait, ce dont on s'est rendu compte tous les trois de nos différentes, avec nos différentes approches, et on travaille tous les trois sur l'influence, sur la science, sur les lobbies, qu'il y avait, après ces décennies de manipulation des études scientifiques dans le but de fabriquer le doute sur la dangerosité de certains produits, on était entré dans une autre phase qui était la captation en fait de l'espace de l'information scientifique destinée au grand public. Et cette prise de possession de ces lieux, on la voyait se faire en fait sous nos yeux avec pas mal de choses qu'on n'arrivait pas franchement à nommer ou à lier entre elles. Et c'est le tricotage qu'on a fait ensemble qui nous a permis en fait de nommer ces choses pour la première fois.
Donc une véritable enquête, Sylvain Laurent. Effectivement, vous montrez bien dans le livre que la fabrique du mensonge et du doute qui a été dénoncée dans les années 2000 a précipité une mutation et donc une accélération de ces formes de manipulation de la science.
Oui, parce qu'on a eu beaucoup de procès qui finalement ont mis sur la place publique des documents, les Tobacco Papers par exemple, ou même les Monsanto Papers, c'est-à-dire la justice américaine a obligé les entreprises à fournir des documents internes, et donc on a pu voir tout le travail que ces entreprises mènent avec des entreprises de relations publiques pour tenter de manipuler l'opinion quelque part. Mais la nouveauté, celle qui émerge justement, c'est suite à ce dévoilement, on a un peu des consultants qui ont fait évoluer leur tactique et qui se sont fondus encore plus dans le décor finalement. Et ils ont endossé le rôle de l'éducateur, du médiateur scientifique. Typiquement, donc on raconte dans le livre ce personnage de Henry Miller qui est un consultant qui dit qu'il peut éduquer le grand public à la bonne science. Et éduquer à la bonne science dans sa bouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire transmettre des petits outils, par exemple l'idée que c'est la dose qui fait le poison, enfin des choses comme ça qui sont pas forcément liées à un seul produit, mais qui sont des arguments qu'on va disséminer dans l'espace public et qu'on pourrait reprendre en se pensant plus savant, et qui finalement vont venir appuyer des stratégies de lobbying après plus classiques. Et on a vu comme ça des associations comme Sense About Science, par exemple, du sens à propos de la science, qui est une ONG qui est un peu un faux-né de l'industrie, qui est entièrement financée par l'industrie, et qui vient au Parlement européen faire de l'éducation à la science, expliquer aux députés qu'ils doivent prendre position parce que les citoyens ordinaires le réclament à partir de notions scientifiques, etc. Donc il y a eu cette espèce un petit peu d'effet caméléon du côté des consultants qui ont commencé à se parer des couleurs du médiateur scientifique et de l'éducateur à la bonne science. Et ça, c'est un premier phénomène. Mais l'autre problème très rapidement qui arrive, c'est que on a un autre mouvement parallèle. Donc, il était là pour le coup plutôt de l'objet de mon livre précédent, qui est un affaiblissement ou une évolution du mouvement rationaliste ou de défense de la science dans un sens qui va toujours plus vers la défense de l'innovation. Donc, un peu comme deux planètes qui se superposent et qui se rencontrent. On a des messages d'un côté de l'industrie qui imite de plus en plus les éducateurs à la bonne science, et on a de l'autre côté des mouvements de défense de la science qui défendent pas simplement l'autonomie de la science en demandant des postes, etc. Mais plus ça va, plus on considère que pour défendre la science, il faut défendre la méthode expérimentale dans l'espace public, et que finalement, les gens qui ont des croyances populaires, etc., il faut leur expliquer qu'ils pensent mal, etc. Donc la rencontre entre ces deux mouvements-là donne quelque chose un petit peu explosif, un cocktail un peu nouveau, qui est qu'on a des mouvements finalement de médiation de la science qui deviennent pour eux. Alors ça ne veut pas dire que tous les mouvements d'éducation à la science, heureusement, reprennent les arguments de l'industrie, mais en tout cas, on voit très bien comment les tactiques industrielles évoluent et tentent de capter ce milieu qui est un milieu plein de bonne volonté et de gens qui s'engagent sincèrement pour la science afin de les mettre à leur service.
Francis Châteaurenou, c'est quelque chose que vous avez pu observer, regarder avec votre regard justement de sociologue et de spécialiste aussi de ces alertes, des alerteurs et des pratiques. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation peut-être plus raffinée aujourd'hui du savoir de la part des firmes pour défendre leur intérêt et puis donc toucher l'opinion publique?
Alors oui, effectivement... C'est toujours plus raffiné. Pourquoi? Parce que les acteurs, d'une manière générale, tous les acteurs apprennent. Ils apprennent des crises, des catastrophes, des procès, des polémiques, des jeux d'acteurs se deviennent de plus en plus compliqués. Donc effectivement, la tâche de l'enquêteur devient aussi de plus en plus compliquée parce qu'il y a effectivement des entrelacs, des réseaux, des nébuleuses, dirait un collègue d'acteurs qui sont de plus en plus entremêlés. Et arriver à y voir clair, c'est très compliqué. Moi-même, j'ai par exemple travaillé pendant 10 ans pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, l'ANSES, où j'ai vu toutes sortes de jeux. Alors ça allait dans un sens, ça allait dans l'autre. Il y avait des rapports de force qui changeaient en fonction aussi évidemment des alternances politiques ou des événements de l'actualité. Donc on a effectivement des choses qui sont de plus en plus fines et subtiles à repérer. En même temps, moi ce que j'observe, c'est quand même des décalages et des déphasages permanents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ces acteurs cherchent à contrôler l'opinion. Moi, l'opinion, je suis comme Bourdieu, je ne sais pas trop ce que c'est. Bourdieu a dit, ça n'existe pas. Enfin, je me place sous sa, voilà, son autorité. C'est pas tous les jours, hein. Mais voilà. Par contre, effectivement, il y a toujours des contre-pouvoirs qui naissent, qui se déplacent, qui s'organisent, des alliances, des coalitions d'acteurs critiques. Et moi, mon souci, en fait, à travers, bon, ça fait 20 ans que je travaille sur des alertes et des controverses de toutes sortes, beaucoup sur des questions de santé, environnement, technologie, mais plus largement, que j'ai essayé de modéliser ça avec des collègues, de travailler avec des, sérieusement. De fait, je constate effectivement la montée en puissance de ces influenceurs, aussi par les changements des technologies de communication et d'information, qui ont énormément changé le paysage en une vingtaine d'années, on voit bien. On n'aurait pas parlé de trollisation de l'espace public il y a encore 20 ans ou 10 ans, même s'il y avait déjà des éléments, etc. Et du coup, il y a eu un changement des outils et des équipements de la critique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et la première chose que je voudrais dire dans le débat, là, c'est quand même la manière dont se fait la recherche et se produit la science qui est en jeu derrière tout ça. C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est pas d'abord la manière dont l'autonomie des milieux scientifiques et leur capacité à construire leurs objets, leurs problématiques, leurs outils, leur communication, etc., qu'il faut regarder. C'est-à-dire que là, il y a effectivement des déplacements de frontières avec des pénétrations assez fortes. La start-up nation, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus.
Donc, ce que vous dites, c'est que l'indépendance des chercheurs n'est plus aussi garantie aujourd'hui de par ces pressions, de par aussi le fait que ces chercheurs, souvent, se retrouvent sur les secteurs les plus ciblés par les lobbies, c'est-à-dire les pesticides, les OGM, le nucléaire, les biotechnologies, un petit peu toutes ces questions au cœur de l'actualité et des enjeux environnementaux.
C'est tout à fait ça, à part qu'il y a un débat avec des historiens qui traînent maintenant depuis 20 ans, je pense notamment à l'école de Dominique Pestre, qui lui a dit, ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu des mélanges des genres, etc. C'est une espèce de fantasme moderne d'avoir pensé à la manière mertonienne, l'autonomie de la science. En réalité, je pense que là, il y a une bagarre importante, à la fois sur l'épistémologie et sur l'axiologie, c'est-à-dire sur les valeurs que défendent des milieux de recherche publics et sur les moyens de produire des connaissances qui servent précisément d'appui. Je parlerai pas de vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais bon, voilà.
Yves Siama, je me tourne vers vous et donc je rappelle bien sûr pour nos auditeurs que vous êtes donc non seulement journaliste scientifique et biologiste de formation, mais vous êtes aussi président de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Donc on imagine que vous avez peut-être potentiellement vous-même des retours de la profession sur ce qui se passe, sur le changement, l'évolution, les pressions. Qu'est-ce que vous avez pu repérer à ce niveau-là ?
Je voudrais dire d'abord que je remercie les auteurs de ce livre et je pense qu'il faut absolument que les journalistes en général et les journalistes scientifiques en particulier le lisent, parce que même si je ne suis pas d'accord avec chaque ligne qui est écrite, l'analyse qui est faite des stratégies des industriels et des influenceurs est extrêmement précieuse et je pense que c'est essentiel pour les journalistes de se tenir au courant de l'évolution des tactiques et des stratégies des industriels et des influenceurs. Mais c'est pas toujours facile pour eux parce qu'il faut mesurer qu'il y a une crise des médias actuellement, que les journalistes sont souvent débordés, sont fragilisés. Par exemple, en ce moment, on voit que Science et Vie tente de réduire ses effectifs, alors justement qu'on a particulièrement besoin de magazines de référence en ce moment. Et je pense que dans ce contexte, beaucoup de journalistes n'ont pas le temps de prendre la réflexion pour comprendre d'où viennent tous les messages qui circulent devant eux. Et c'est pour ça que ce type de livre, ou les livres précédents de Stéphane Aurel comme Intoxication, ou des livres de base de référence comme Marchand de doute de Naomi Oreskes et Eric Conway, devraient être sur la table de chevet des journalistes, mais malheureusement, n'y sont pas toujours.
Sylvain Laurent, on parle de cette technique, hein, on peut quand même peut-être s'y attarder parce que vous la décrivez effectivement de façon très argumentée et puis très nourrie hein, d'exemples. Donc on est face à quoi ? À quelle méthode utiliser ? On utilise des citoyens ordinaires ou censés l'être sur les réseaux sociaux, des micro-influenceurs ? Qu'est-ce qui se passe ? On fournit aux journalistes une information scientifique pré-mâchée, fragmentaire, pour justement cette profession qui a un peu plus de mal peut-être aussi à travailler avec du temps et donc de la vérification.
Alors, il y a plusieurs techniques. D'abord, on pourrait prendre, pour vous répondre, l'exemple de Jay Barnes, qui était ancien responsable des relations publiques de Monsanto, dont l'évolution dans la carrière montre bien le tournant qu'a pris l'industrie de l'influence. Donc, il est en charge de l'influence chez Monsanto, et donc il a montré sa propre entreprise qui s'appelle Vifluence, et qui donc est totalement à la pointe de ce genre de technologie. Donc, c'est une entreprise qui fournit ce qu'on appelle des fermes de contenu, c'est-à-dire des sites auxquels on peut se connecter si on a les codes, etc., et dans laquelle on va récupérer des diapositives qu'on pourra poster sur Twitter, des argumentaires, etc. On peut avoir ce type de logique-là. Donc, c'est-à-dire, on va cibler des comptes influents qui ont beaucoup d'abonnés. Alors là, après, tout est possible. Soit on est rentré en contact personnel avec ces gens-là et les tweets, ça s'achète, en fait. On peut se payer un trade. On peut rencontrer des youtubeurs aussi. Alors là aussi, avec toute une zone grise de certains youtubeurs qui touchent une communauté qu'on veut toucher, on peut les repérer avec un logiciel qui s'appelle Trahacker, qui vaut environ 25 000 dollars la licence, mais qui permet de savoir si votre youtubeur a des vrais abonnés, des faux abonnés, combien de fois ces vidéos sont commentées en moyenne, combien ça vous coûterait par rapport à un plan média classique, etc. Et donc là, après, s'engage une discussion avec ces agences qui ont souvent un pool de plusieurs youtubeurs pour savoir si la vidéo va être entièrement payée, est-ce qu'on va négocier le script, est-ce qu'il y aura du placement de produits, est-ce que... Voilà, donc là, il y a toute une zone. Alors, tous les youtubeurs, je m'empresse de l'ajouter, qui font de la vulgarisation scientifique, ne sont pas achetés, c'est bien plus compliqué que ça. Mais en même temps, c'est très compliqué d'enquêter sur ces univers-là dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, on nous a dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis dans votre livre une liste des bons et des mauvais youtubeurs? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le secret des affaires. Et déjà, bon, on en lâche un dans le livre à un moment, parce qu'il y a quelqu'un dans une agence qui nous lâche le nom d'un youtubeur au passage d'un entretien. Mais en fait, tout ça n'est pas si simple à analyser et à enquêter. Et donc, on va avoir après cette zone où un youtubeur, par exemple, de vulgarisation scientifique peut faire une vidéo sur, par exemple, comment marchent les tunnels, comment on creuse un tunnel aujourd'hui, sachant que la vidéo, elle est plus ou moins pilotée par Bouygues, qui a fait appel à une agence pour toucher un public plus jeune, celui qui regarde ses chaînes de vulgarisation scientifique sur YouTube. Et donc là, on a une forme d'influence qui est pensée comme étant ce qu'ils appellent de la micro-influence, parce que les entreprises de relations publiques font le constat que le taux, ce qu'ils appellent l'endorsement, c'est-à-dire la capacité de quelqu'un à prendre sur lui un message d'entreprise et le porter auprès du public, est aujourd'hui plus forte sur YouTube quand elle est portée par un micro-influenceur dont on a l'impression qu'il est bénévole, qu'il est proche de son public, etc., que par une star. Et que donc là, il y a toute une, on va dire, une économie qui s'est développée de la micro-influence. Pourquoi ça s'est développé aussi? Parce que des plateformes comme YouTube, en fait, massacrent les vues des vidéos d'annonceurs classiques. C'est-à-dire, si vous êtes Adidas ou n'importe quelle marque de sport qui veut faire une vidéo, une pub sur YouTube, les algorithmes de YouTube vont le repérer et vont vous descendre. Et donc, pour compenser ça, il y a des agences qui vous proposent soit vous achetez des vues directement à YouTube pour faire remonter votre publicité dans les algorithmes, soit effectivement vous passez par un micro-influenceur qui va tenir sa chaîne YouTube et qui fait le commerce d'articles de sport toute la journée et qui touche sa communauté d'abonnés. Et là, ça vous coûtera beaucoup moins cher et vous aurez, si vous en avez 10, un taux d'impact à peu près équivalent à une publicité. Donc ça, appliqué à la science, ça donne quoi? Ça donne des youtubeurs qui vulgarisent la science, mais qui peuvent être potentiellement, pour ceux qui se prêtent à ce jeu-là, et encore une fois, c'est pas tous le cas, et là-dessus, il faut peut-être remettre encore une fois l'accent là-dessus. Sûr. Pour ceux qui se prêtent à ce jeu-là, c'est des très bons véhicules pour les messages de ces entreprises là. Pourquoi? Parce qu'ils touchent un public jeune. Ils sont sur des thématiques transversales, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent être utiles pour plusieurs clients dans plusieurs secteurs. Typiquement, celui qui a fait la vidéo pour Bouygues, il le fait aussi après pour Ariane Espace et les lâchers de satellites dans l'espace. Et donc, en fait, on peut avoir ce que le consultant qu'on a rencontré appelle comme ça des youtubeurs qui font de l'horizontal, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler pour plusieurs types d'entreprises. Donc voilà le type de mutation auquel on observe, qui peuvent passer par du Twitter, par du YouTube, sachant que, encore une fois, l'idée, c'est de travailler l'écologie d'un espace de discussion, s'appuyer sur quelques comptes qui ont beaucoup d'abonnés, et après, le reste des autres tweetos ou des abonnés suivent, en fait. C'est ça aussi qui est compliqué à décrire, et c'est ça qui crée beaucoup de remous autour du livre, c'est que on n'a jamais prétendu dire que tous les gens qui étaient sur Twitter et qui relayaient des messages pro-glyphosate étaient à la solde de Monsanto. Mais par contre, tout cet écosystème de gens qui disent des choses sur les plantes, ou qui disent des choses sur...
C'est démultiplié par autant de comptes.
Ce que dit le consultant très techniquement dans le livre, c'est qu'en gros, le but n'est pas de payer plein de comptes avec des faux comptes, etc. Vaut mieux avoir peu de gens qui vous relaient, mais avec beaucoup d'abonnés, pour travailler des sphères, des bulles d'internautes qui, eux, vont relayer systématiquement, ou retweeter, ou commenter ces messages-là. Donc, en fait, on façonne l'écosystème de micro-bulles sur Twitter pour les faire réagir. Et donc, c'est là-dessus que ça joue. C'est-à-dire, il y a des gens qui savent pourquoi ils sont là, et puis il y a des gens qui relaient en bonne conscience. Et là, je rejoins ce qu'a dit Francis Château-Renaud tout à l'heure. C'est que ça rejoint aussi la formation à la science de jeunes. C'est-à-dire que souvent, les jeunes qui tiennent ces chaînes YouTube-là sont des doctorants qui sont en fin de contrat, qui sont précaires, ou bien qui sont en chiffres, c'est-à-dire qui sont en thèse, mais financés par des entreprises à côté, et qui ont déjà un rapport à la science où innovation et science sont mêlées, et où finalement ces discours-là appuient leur propre pratique de chercheur. Et donc, c'est ce mélange-là qui est très explosif et qui produit cette nouvelle écologie de l'influence.
Et d'où l'importance d'informer, parce que comme vous l'expliquez dans le livre, hein, recruter des défenseurs, donc c'est le but, mais parfois aussi à leur insu, hein, on y retrouve donc des profils très différents. différents, des intellectuels, des sociologues, des scientifiques, des étudiants, des enseignants, des blogueurs, des amateurs de sciences et puis des journalistes. Et cette question, elle pose aussi la question de la neutralité, de l'indépendance des médias et aussi donc de celle des institutions de recherche. Pour ce qui est des médias, on a vu quand même aussi de grandes institutions médiatiques hein, comme l'AFP, France TV, Radio France et autres, devoir mettre en place des cellules anti-fake news.
À France Info, avec la chronique Le Vrai du Faux, ça fait longtemps maintenant qu'on lutte contre la désinformation. Mais parce que ces fausses infos sont massivement partagées aujourd'hui, parce qu'elles sont partout, on va aller encore plus loin. On lance une cellule Le Vrai du Faux. 7 journalistes entièrement mobilisés sur ces questions. On va être beaucoup plus présents au quotidien, à l'antenne, pour vérifier, pour mettre en contexte l'actualité. Et on va être aussi plus présents sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire là où les fausses informations sont massivement partagées, avec de nouveaux formats sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On va vous accompagner, vous donner des outils pour être mieux armés face aux intox. Et si vous avez une fausse info, une rumeur, un doute sur une vidéo, sur une photo, n'hésitez pas à nous le signaler. On travaillera dessus. Hashtag vrai ou fake.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
C'est un document sonore qui a été diffusé sur les antennes de Radio France à partir du mois d'août 2019. Et donc, on l'aura compris, une guerre pour le contrôle de l'information d'une manière générale et donc de l'information scientifique serait en cours, d'où la nécessité aussi d'informer et d'éduquer. Stéphane Aurel, une réaction et ensuite Francis Château-Renaud.
Je me souviens très bien de cette arrivée de la fake news dans le discours. Et à cette époque, je traînais pas mal à Bruxelles. Et les personnes qui utilisaient le plus ce terme, c'était les lobbyistes des pesticides. Et il y a une espèce de captation en fait de ce terme de la fake news. Et aujourd'hui, ce qu'on décrit dans le bouquin, c'est qu'il y a beaucoup d'industriels ou de ce qu'on appelle les trade associations qui regroupent les intérêts d'un domaine en particulier, qui font leur propre site de debunking de fake news, qui sont en fait des sites de propagande pour contredire la critique de leurs produits, donc l'industrie agroalimentaire, les pesticides. Tout le monde essaye en fait de s'emparer de ce domaine du debunking, en fait, qui est ce que Sylvain expliquait, c'est au moyen de propager ce qu'ils considèrent être la bonne science, en tout cas leur bonne version de la science, et qui est une façon de s'emparer en fait de la science et de ses mécanismes pour en fait avancer la défense de produits et une idéologie.
Alors, fake news, on peut aussi dire infox, hein, je crois, en français. Francis Château-Renaud, donc par rapport à ces infox et puis à cette nécessité, on voit bien hein, d'entrer dans cette information supplémentaire, monter des cellules pour contrer un petit peu ces informations fausses qui ensuite touchent le public et sont relayées.
Bon, il y a énormément de choses à dire, je vais aller vite. Oui. Premier passage sur France Culture, c'est en 1995 chez Alain Weinstein, qui avait lu un ouvrage qu'on a publié, donc qui s'appelle Experts et faussaires. C'est une sociologie du faux, qui a pas mal marché, je dois dire d'ailleurs, enfin de manière discrète, hein, et qui a beaucoup touché à ces questions-là. C'est-à-dire quelle prise on a pour authentifier, rétablir une vérité, recouper, produire des faits tangibles et éviter les manipulations. Donc on avait travaillé sur 200 affaires de faux à l'époque, c'était assez marrant. Et on a fait une mise à jour récente avec le collègue Christian Bessier, économiste, etc. Et Weinstein avait cité en exergue de son émission une phrase du bouquin qui dit « L'authenticité s'abîme quand elle s'énonce ». C'est-à-dire que tous ceux qui mettent en avant la vérité, la raison, la science en permanence, effectivement, comme on dit, il y a un loup quelque part. C'est-à-dire qu'au fond, pourquoi tout le temps énoncer ça plutôt que de montrer tout simplement ce qu'on fait ? Alors je pense que la première chose qu'il faut retrouver, et c'est là où le web joue un rôle effectivement un peu pervers par rapport au web des origines, dont on pourrait beaucoup parler aussi, c'était pas du tout le projet de l'Internet, de produire effectivement ces mondes de trolls, de fake, de tout ce que vous voulez, de bagarres, à n'en plus finir sur la représentation, c'est comment arriver à rendre accessibles et visibles les procédés par lesquels on produit des connaissances. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Au fond, dès lors qu'on rend accessible, qu'on rend reproductible, comme nous aurait dit d'ailleurs de bons vieux épistémologues, les manières de produire des faits, de produire des datas, des éléments, etc., on change déjà les termes de la controverse. Et effectivement, quand les choses arrivent sur la place publique, tu l'as dit Sylvain, mais après coup, c'est-à-dire à l'issue de grands procès, de grandes affaires, le Tobacco Papers, Monsanto Papers, on peut avoir les leaks qu'on a ces dernières années, etc. Là c'est Football Leaks, enfin, il y en a plein, quoi. C'est évidemment bien après. Et entre-temps, les acteurs sont passés à autre chose. Le monde bouge constamment, évidemment.
Et la technique a évolué.
Le rôle de la recherche, et là je m'adresse à nos ministères, à nos autorités, qui sont apparemment sensibles au problème de la recherche, ben, c'est justement de travailler à cette visibilité-là. et pas au contraire de mettre en boîte les choses avec d'un côté des brevets, du secret des affaires, des espèces de compétitions tous contre tous, etc. Et puis de dire, ah ben oui, mais vous savez, regardez votre ranking sur Google et puis vous allez avoir ça, toutes les boîtes noires s'accumulent. Et donc on est effectivement dans la création de conditions dans lesquelles ben, les acteurs qui arrivent un peu naïfs, qui s'intéressent à un sujet, sont un peu perdus. Il y a un deuxième point qui est très important, et moi je suis un sociologue de terrain, c'est-à-dire que tous les dossiers environnementaux, technologiques, sanitaires que je travaille, je vais voir les acteurs dans leur milieu, là où ils sont. Et là, je vous assure que les irrationnels, les imbéciles, décrits par certains sociologues rationalistes, virilistes, n'existent pas. Les gens sont aux prises avec leur monde, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des pêcheurs, que ce soit des ingénieurs du nucléaire, peu importe. Moi, je ne porte pas de jugement, justement, a priori, sur ce qu'ils font. On constate que les acteurs sont dans leur monde et ont des savoirs. Ça, les anthropologues n'arrêtent pas de le redécrire en long, en large, en travers. Et donc, sur le terrain, dans la vraie vie, entre guillemets, alors, ça commence où, la vraie vie? On n'en sait rien. Le web en fait partie aujourd'hui, c'est bien ça le problème. Il y a constamment production d'éléments tangibles. Donc, il faut retrouver d'une manière ou d'une autre dans la boucle ces capacités de prise collective. Sinon, effectivement, ça va dériver. Et ça sera très difficile à rattraper. Donc on aura de plus en plus de désintoxiqueurs, de désintoxeurs, je ne sais pas comment on dit.
Donc finalement, promouvoir l'épistémologie civique, hein, c'est ça, les enquêtes de terrain.
J'allais
aussi,
y venir, mais comme
prennent en compte.
Voilà,
mais
on va
en parler dans la deuxième partie de l'émission. Je voudrais juste me tourner vers Yves Siama. Yves Siama, concrètement, vous, par rapport à ce nouveau monde, en fait, hein, dans lequel vous travaillez en tant que journaliste scientifique, et on a compris que cette discipline-là était aussi mise à mal, comment vous faites concrètement pour y voir clair, ou alors pour éviter justement les pièges dont on a parlé?
Alors, une partie de ces pièges sont des vieux pièges. Je rappelle quand même que les journalistes ont toujours été au centre d'un faisceau de pression exercé par les groupes d'intérêt, le pouvoir politique. Et ces pressions que les journalistes connaissent bien, mais que le public ne connaît pas toujours, prennent tout un tas de formes. On est régulièrement cajolés, invités à des voyages de presse pour aller voir un lancement d'Ariane à Kourou. Moi, j'ai été invité par l'EFSA, l'Agence sanitaire européenne, à Parme, 3 jours pour assister à un de leurs colloques. Bayer invite des journalistes à visiter ses installations. Donc, si vous voulez, il y a ça. Et puis, il y a plein d'autres ménages. On vous invite à modérer des tables rondes bien payées.
Oui, mais Yves Siama, on se rend compte qu'aujourd'hui, par exemple, des tables rondes peuvent se passer dans des enceintes très prestigieuses, le Collège de France, le CNRS, enfin, voire des institutions dans lesquelles on est en toute confiance quand même, embarquées, et que ça devient plus difficile aussi aujourd'hui de repérer finalement qui, in fine, est derrière l'organisation de l'événement.
C'est vrai, et ça fait partie des choses qui commencent à changer et auxquelles justement il faut s'adapter. Maintenant, on voit très bien fleurir au Collège de France ou à l'Académie des sciences, à chaque événement, des logos de toute une série de grandes entreprises, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'organisé. Et puis maintenant, effectivement, il y a ce que vous commenciez à décrire, donc l'arrivée sur le net des trolls qui suivent les journalistes un peu pas à pas. Et là, on se rend compte que dès qu'on touche à des sujets comme les pesticides, comme la cigarette électronique, comme l'éolien, le nucléaire, etc., là, tout d'un coup, on voit 300 tweets atterrir sans qu'on sache d'où ils sortent. Et il y a une espèce de chasse en meute d'un certain nombre de groupes qui n'existaient pas avant. Donc c'est un peu pour donner les clés d'éclairage de ces phénomènes-là que le livre dont on parle aujourd'hui est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que l'influence, c'est quelque chose qui est vieux, mais qui se réinvente en permanence, et que nous, on doit suivre avec beaucoup de vigilance, parce que nous en sommes souvent la cible.
Sylvain Laurent, je me tourne vers vous. C'est l'heure d'écouter votre choix musical. Donc, vous allez nous livrer et puis nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix. C'est un groupe, hein, The Devil Makes Three. Et le titre de la chanson, Old Number 7.
Oui, c'est une chanson que pourrait endosser le lobby de l'alcool. Ça parle d'un whisky d'une marque célèbre. Et je pense que c'est une vidéo qui a été très promue sur YouTube pour des raisons pas forcément même. Alors même que le contenu de la parole décrit plutôt quelqu'un à qui l'alcool gâche sa vie. Et comme... il y a beaucoup de choses encore à creuser et à dire sur les lobbies de l'alcool, qui, je pense que voilà, c'était tout à fait approprié comme choix.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
I guess I grew up on an older road. A pedal to the metal, always did what I told. Till I found out that my brand new clothes are came secondhand from the rich kids next door. And I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. And now I just wander through a real bad dream, feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you, Jack Daniels. Oh, number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Thank you, Jack Daniels. Oh, number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And I know I can't stay here too long, 'cause I can't go a week without doing wrong.
Et c'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture, notre magazine de l'environnement consacré aujourd'hui à la mécanique médiatique, science et lobby, une guerre d'un nouveau genre, on peut le dire. Nous sommes avec la journaliste Stéphane Aurel, le sociologue Sylvain Laurent, tous deux auteurs avec Stéphane Foucard du livre Les gardiens de la raison, un livre paru à la Découverte. Nous sommes également avec Francis Château-Renaud, sociologue et directeur d'études à l'EHESS, directeur du groupe de sociologie pragmatique et réflexive et auteur du livre Alerte et lanceurs d'alerte, paru dans la collection Que sais-je de Humensis. Et puis Yves Siama, en liaison téléphonique avec nous, journaliste scientifique et président de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Et je signale un de vos livres, Le changement climatique, une nouvelle ère sur la Terre, un livre paru chez Larousse. Mais tout de suite, direction la rédaction des pages planète du journal Le Monde, notre partenaire média et comme d'habitude dans l'actualité qui touche à l'environnement. Petit coup de projecteur sur une information choisie par l'un des journalistes du quotidien. Et aujourd'hui, ce sera une journaliste. Bonsoir Laurence Caramel.
Bonsoir.
Vous êtes notre œil du monde planète et vous êtes donc journaliste au service Afrique du journal Le Monde. Alors, un article paru dans la revue Science vous a interpellé, intéressé. Il révélait que le changement climatique affecte donc de manière massive la quantité de fruits dont peuvent se nourrir les éléphants dans les forêts d'Afrique centrale, à tel point que leur amaigrissement est visible sur les photos prises par les touristes et les scientifiques.
Oui, c'est une étude tout à fait rare qui a été menée dans le parc national de la Lopé, au Gabon, à partir de données collectées pendant 30 ans sur un millier d'arbres de 70 espèces différentes. C'est ainsi que commence une collecte de données mensuelles et qui permet aujourd'hui aux scientifiques de l'université de Stirling d'affirmer que la quantité de fruits disponibles a chuté de 80% au cours de cette période. Les scientifiques estiment que la cause principale de cet effondrement est le changement climatique, qui se manifeste de deux façons, par une diminution de la quantité de pluie et par une hausse des températures moyennes d'environ 1 degré Celsius sur ces trois décennies. Or, au-dessus d'un certain seuil de température, certaines plantes ne fleurissent plus et ne produisent donc plus de fruits.
Alors concrètement, Laurence Caramel, est-ce que cette étude permet de tirer des conclusions sur la situation des éléphants de forêt? Et puis, de quelle manière est-ce que les chercheurs finalement ont procédé?
Les chercheurs avaient à leur disposition un fonds de 80 000 photos d'éléphants qui ont été prises à la fois dans le cadre de recherches ou par des visiteurs du parc de la Lopé. Et donc, ils ont lancé une opération de science participative avec des volontaires gabonais européens pour examiner ces photos qui ont été mises en ligne sur une plateforme numérique. Un peu moins de 3000 clichés ont été retenus, datés et jugés de qualité satisfaisante. Et la conclusion est qu'en 20 ans, les éléphants du parc de la Lopé ont perdu 10% de leur masse corporelle. Alors, la raison la plus plausible est qu'ils ne parviennent plus à se nourrir correctement.
Alors vous avez interrogé le ministre de l'Environnement gabonais, Lee White, qui est aussi un scientifique. Il a participé, je crois, à cette étude et il se dit catastrophé par ses résultats.
Oui, Lee White faisait partie des scientifiques qui, au début des années 80, sont allés dans les forêts gabonaises et ont commencé à étudier les gorilles notamment. Alors l'idée que les éléphants, mais certainement d'autres animaux, puissent avoir faim à cause du réchauffement est évidemment inquiétante. Cela pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi les éléphants sortent de plus en plus souvent des aires protégées pour aller se nourrir dans les champs. Et cette mauvaise nouvelle s'ajoute au fait que ces éléphants de forêt d'Afrique centrale, dont il reste moins de 100 000 individus, sont les plus décimés par le trafic d'ivoire. Enfin, cette étude montre que les forêts africaines, dont on pensait qu'elles résistaient mieux au changement climatique que les autres bassins forestiers tropicaux, comme l'Amazonie, sont en fait le siège de grands bouleversements qui vont affecter de façon profonde l'avenir de ces écosystèmes.
Bien, merci Laurence Caramel, et je précise qu'effectivement ces éléphants qui quittent les forêts pour chercher leur nourriture dans les plantations, ils entrent aussi en conflit avec les villageois. Je renvoie nos auditeurs à votre article, et puis je signale aussi que l'article de Clémentine Thiberge sur la mort de centaines d'éléphants au Botswana à cause d'une bactérie dont le développement est favorisé par le réchauffement climatique est à votre disposition, tout cela sur le site de l'émission bien sûr et sur le site dumonde.fr. Merci.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
On va parler quand même de ce Media Center britannique, parce que c'est un véritable instrument d'influence en fait. Un tiers du financement de ce Media Center repose sur le privé. 20 des 100 experts les plus mis en avant dans cette instance ne sont pas de scientifiques. Ce sont des lobbyistes, et certains sont même climato-sceptiques. En outre, fournir à des médias une science officielle, à mon avis, ça risque d'aggraver la défiance à la fois à l'égard des médias et à l'égard de la science. Et pour améliorer la connaissance scientifique, et c'est un objectif bien sûr que je partage, il faut des journalistes scientifiques. Et je vous le redis, c'est un véritable métier, et ça dans toutes les rédactions. Et donc, il vaut mieux faire ceci plutôt qu'une agence de communication, qu'elle soit privée ou gouvernementale. Parce que ce sera surtout, sinon, une officine de lobbyistes. C'est comme ça que ça va être perçu.
Merci, monsieur Larive. Madame la ministre.
Ça n'est en rien ce que vous semblez sous-entendre d'une sorte de propagande gouvernementale. Alors non, ne rêvez pas, monsieur Larrivé. La propagande gouvernementale, ça n'est pas dans les pays que nous soutenons. Ici, nous sommes en France, nous sommes en démocratie, et nos chercheurs, nos scientifiques, nos enseignants-chercheurs bénéficient de la liberté d'expression, et vous me trouverez toujours à leur côté pour la défendre, et certainement pas pour les accuser.
Madame la ministre, j'ai quand même un petit problème avec ce que vous dites, dans la mesure où il suffit de lire ce qui est marqué. Créer un centre sciences et médias à l'instar de ceux que l'ont installé plusieurs autres pays, et vous citez l'Allemagne, l'Australie et le Royaume-Uni. Et là, au banc, vous nous dites non, c'est pas l'exemple. Alors, comment dire, soyez quand même cohérents à ce moment-là, ne citez pas la Grande-Bretagne si vous ne voulez pas vous servir du modèle de la Grande-Bretagne. Et c'est ça qui est terrible. À plusieurs reprises, vous répondez, et en fait, ce que vous dites au banc est en contradiction avec ce qui figure dans le texte. C'est quand même assez désagréable.
C'était un extrait du débat qui s'est tenu à l'Assemblée nationale le 23 septembre 2020, et on entendait une question de Michel Larive, député France Insoumise, posée donc à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, et puis la réponse du député et républicain Patrick Hetzel. Il y a cette création possible, en tout cas potentielle, d'un Science Media Center en France, qui se trouve dans le projet de loi de programmation de la recherche, Stéphane Aurel.
Le Science Media Center, en fait, c'est pas une nouveauté, ça existe depuis 2002 en Grande-Bretagne. C'est une histoire assez particulière, sur laquelle je vais laisser Sylvain revenir. Mais le concept du Science Media Center, c'est de proposer des citations et des briefs tout près aux journalistes scientifiques sur des sujets d'actualité scientifique, sur des publications en général qui font débat, des kits de réaction rapide, comme ils les appellent, c'est-à-dire, vous allez sur leur site internet, maintenant, il y a une telle étude, pour telle étude, et il y a plusieurs citations toutes prêtes de différents scientifiques qui sont parfois pas d'accord, et qu'on peut réutiliser telles quelles, sans créditer le Science Media Center dans son article. Donc c'est un outil très pratique pour les journalistes pressés, c'est un outil aussi très pratique pour les rédactions qui n'emploient pas des journalistes scientifiques en permanence et qui du coup prennent des piges. Donc pour les pigistes qui sont complètement pressurisés, c'est extrêmement pratique, quoi. C'est vraiment la formule sandwich et dessert, quoi.
Mais ces informations, qui les fabrique?
C'est le Science Media Center.
Et donc, derrière ce Science Media Center, il y a qui, Sylvain Laurent?
Alors, le projet, déjà, il émerge dans un contexte particulier, qui est celui d'une après-crise. Là, le parallèle avec la France, il marche bien. Donc là, on est après la crise sanitaire viande bovine en Angleterre, et un groupe d'anciens militants marxistes devenus se revendiquant de la pensée ultralibérale et libertarienne vont démarcher des responsables politiques, des lords, des barons, etc., pour, dans le contexte post-crise bovine, mettre en avant l'idée que un des problèmes qui s'est posé avec la crise bovine en Angleterre, c'est la circulation de fausses rumeurs, de mauvaises informations. Déjà, on ne parle pas de fake news, mais c'est pas loin. Et que donc, la solution au problème pour le politique, c'est de créer une instance qui va réguler la circulation de l'information. Et donc là, il y a un truc très important qui se joue. C'est, en gros, on arrive à convaincre les décideurs politiques pour résoudre les problèmes autour de la science. Il suffit d'avoir une super agence de presse qui va être hébergée plus ou moins par une académie royale des sciences et qui va venir donner le là, la bonne science dans l'espace public. Bon, ça marche tellement bien que 20 ans après, Boris Johnson, une fois qu'il a le Covid, on n'est pas plus éclairé. Mais l'idée est celle-là au départ, c'est d'avoir une instance qui va venir donner le là dans l'espace public. Et là, il y a trois problèmes en fait avec ça. Le premier, c'est que ça a un effet de prédation sur les autres sources. C'est-à-dire en fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart des rédactions se mettent à copier-coller à la chaîne les communiqués du Science Media Centre. Deuxième effet, c'est que ça fait de l'actualité scientifique une actualité plutôt univoque. C'est-à-dire, on va dire, au lieu d'avoir un journaliste qui va aller mettre son micro un petit peu partout pour avoir les différents sons de cloche, parce qu'il y a des sujets qui font consensus, mais ils font pas
tous
consensus.
On a les mêmes spécialistes proposés, c'est ça ?
Voilà, on a les mêmes spécialistes. Et d'ailleurs, parfois, c'est même pas des scientifiques. En fait, c'est ça qu'a montré l'étude de l'équipe de BAF, c'est qu'on a une partie de ces gens sollicités qui sont même pas chercheurs, en fait, qui sont des industriels ou autres. Et surtout, sur certains sujets, on va même dézonner du consensus scientifique. Et enfin, troisième problème, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que ça nuit à la profession de journaliste scientifique. Ça mine les fondements de ce qui fait la spécialité de journaliste scientifique dans les rédactions. Si on peut envoyer n'importe quel stagiaire, comme l'a dit Stéphane, un briefing le matin, il peut revenir avec au moins quelques citations de scientifiques et il va pouvoir illustrer son papier. Et du coup, les rédactions ne sont plus incitées à garder en interne une spécialité qui est celle du journaliste scientifique. Or, on n'a plus les moyens en interne, de parler de la vérité scientifique, du coup. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et moi, je pense que là-dessus, il y a une vraie réflexion qui commence à émerger du côté des journalistes scientifiques qui sont mobilisés autour de ça. Mais pour moi, le journalisme scientifique, c'est un des piliers de la démocratie. C'est-à-dire, si vous n'avez pas dans les rédactions des gens qui sont capables de dire ce qui est vrai et faux, comment fonctionne la science, ça pose un vrai problème. Et ça prend du temps de comprendre comment fonctionne la science.
En précisant que ce modèle a été créé donc en Grande-Bretagne, mais a été créé aussi dans d'autres pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada. Est-ce que potentiellement, Stéphane Aurel, la ministre Frédéric Vidal a pu être approchée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle propose cette création en France, ou est-ce que l'épidémie aussi de Covid-19 a accéléré cette nécessité telle qu'elle est ressentie au niveau politique ?
Nous, on a essayé de retracer en fait le parcours, l'importation de cette idée en France, et elle est assez claire. Le trajet jusqu'à la ministre est assez clair. C'est une sociologue qui s'appelle Virginie Tournay qui a pas mal œuvré en fait pour cette idée-là et qui a envoyé une note au cabinet de la ministre pour soumettre cette idée de Science Media Center à la française avec une référence au Science Media Center britannique. Et la chose qu'on n'a pas précisée encore, c'est que non seulement il y a la question de qui sont ces experts, comment ils sont sélectionnés par le Science Media Center, et donc une étude qui a été menée en 2013 a montré que 20% de ces experts n'avaient pas de diplôme scientifique et certains étaient des anciens responsables de lobby pour les biotech, des associations de lobbying pour les industriels des biotech par exemple. Mais c'est aussi les sources de financement. C'est-à-dire que le Science Media Center bénéficie de financements industriels qui ne sont pas majoritaires mais qui sont quand même importants. Le problème c'est qu'on n'a jamais eu vraiment les détails depuis 2002. Le détail des comptes du Science Media Center britannique ne sont suffisamment imprécis pour qu'on ne puisse pas savoir exactement quelle est la proportion de financement de l'industrie. Et donc, une espèce de brouillage des cartes qui a permis au Science Media Center de s'imposer comme quelque chose de...
comme une référence.
Une institution de référence, presque une institution. Et on ne sait pas très bien, en fait, en France, si la référence dans le projet de loi au Science Media Center britannique est très claire. Ils ne semblent pas aborder ça avec cet aspect au niveau financier. C'est-à-dire que ce serait plutôt quelque chose avancé par l'État plutôt que reposant sur des financements privés.
Yves Siama, c'est une source d'inquiétude pour vous. Sylvain Laurent parlait aussi de la réflexion à avoir sur le métier de journaliste scientifique.
Pour nous, assez clairement, c'est une stratégie pour ne pas avoir de journalistes scientifiques, en fait. C'est-à-dire, c'est plus exactement, c'est une adaptation au fait que les journalistes scientifiques sont en voie de disparition. Alors, on fait disparaître les journalistes scientifiques. Alors, comme du coup, il n'y a plus personne qui sait traiter la science avec recul et critique, alors on crée quelque chose qui va distribuer de la science prémâchée. Donc, nous, de ce point de vue, on rappelle constamment qu'une démocratie vivante a besoin de journalistes scientifiques dans tous les médias et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un seul média digne de ce nom sans un pôle scientifique en son sein. Parce qu'on a des collègues britanniques et on les interroge sur comment ça se passe avec ce Science Media Center dans leur pays. Et ce qu'on voit pour l'instant, c'est que ça crée une couverture de la science qui est conformiste. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est les grandes institutions qui financent de la science ou l'État, on a une science un peu mainstream, une couverture qui ne va pas chercher les voix critiques et les choses nouvelles qui se passent. Et du coup, voilà, c'est une couverture conformiste et puis c'est une couverture en troupeau en réalité, parce qu'il faut être au briefing du Science Media Center, alors on y va parce que les autres y sont, et puis on reçoit le briefing du jour, et puis comme on a passé son après-midi là, bon, on fait son article là-dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour faire une autre enquête sur autre chose. Et c'est ça qui nous inquiète. De toute façon, la question clé, c'est la question du financement, c'est-à-dire qui paye. Parce que on pourrait imaginer un Science Media Center tenu par des journalistes à qui on aurait garanti l'indépendance et qui cherchent justement à faire une couverture de la science de qualité, originale et critique. Mais quelle institution paierait pour des journalistes susceptibles d'enquêter sur elles-mêmes et de soulever les problèmes de sa propre science ? Donc on voit pas bien quel est le projet du gouvernement ici, surtout qu'il y a eu des fluctuations, comme vous l'avez souligné, dans ce qui était annoncé par Madame Vidal.
Un principe dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'il faut en parler, c'est quand même le principe de précaution. C'est vrai qu'on a le sentiment que dans ces questions-là, dans ces divergences, controverses ou polémiques, ces guerres, le principe de précaution est presque un gros mot. Mais pourquoi y a-t-il une telle hostilité ? Et finalement, si on regarde la crise du coronavirus, est-ce qu'elle n'aurait pas eu un impact quand même sur le thème de la prévention et du précautionnisme ? Francis Châteaurenoux ?
Oui, c'est au cœur des propos. D'ailleurs, les attaques des anti-héros de nos auteurs... La précaution pour eux, c'est vraiment l'ennemi, quoi, l'ennemi à battre. Il y a même un sociologue qui a fait un ouvrage qui s'appelle L'inquiétant principe de précaution, comme si un principe pouvait être inquiétant. Enfin, non, c'est compliqué cette histoire de précaution, parce que la précaution, quand on l'a bien comprise, c'est quand même un truc intelligent qui a été forgé pendant plus de 20-30 ans, notamment autour de Rio, 92, mais ça a cheminé, etc. Il y a eu la crise de la vache folle, ça a été rappelé, il y a eu plein d'événements où on a effectivement des incertitudes.
Sur la crise sanitaire actuelle.
C'est la question des incertitudes. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas tous les savoirs, quand il y a des doutes, quand il y a des controverses, quand il y a des incertitudes sur ce qui est, etc. Il faut débattre, il faut ouvrir la recherche, il faut organiser des mesures proportionnées et il faut agir plutôt que de s'abstenir d'agir. C'est-à-dire, dans le doute, on ne s'abstient pas. C'est ça le principe de précaution. Donc je ne vois pas en quoi c'est inquiétant. C'est au contraire l'intelligence collective. Et donc tout ça, ça mène très rapidement à un débat complètement faussé où il y aurait d'un côté les précautionnistes qui seraient des gens qui ont peur de tout, à tel point qu'il était question de faire un principe d'innovation. Alors ça, c'est le Parti Socialiste qui portait ça, hein, je le rappelle quand même. Pour contrebalancer le principe de précaution, alors quand même des gens ont rappelé qu'il y avait une liberté d'entreprendre, il n'y avait pas forcément besoin de... voilà. Que du coup, il y a eu le secret des affaires, hein, qui est venu aussi alors bloquer pas mal de processus d'enquête et d'alerte, etc. Donc moi, je plaide plutôt pour... pousser tout ce qui a émergé depuis maintenant plus de 30 ans dans énormément de pays, pas uniquement en France bien sûr ou en Europe, que certains appellent l'épistémologie civique ou l'épidémiologie populaire, la recherche participative, la science citoyenne, allons-y, il y a toutes sortes de labels. La FIS, l'Association française d'information scientifique, est aussi un des acteurs particulièrement travaillés dans cet ouvrage, avait mais piqué une crise collective lorsque le CNRS avait financé un programme, soit c'est vers 2014, par là, au nom des sciences citoyennes, parce qu'ils y voyaient effectivement une attaque de la science par toutes les sortes d'irrationalités, de croyances et de lobbies, alors qu'en fait, au contraire, il y a énormément d'expériences aujourd'hui cumulées qui montrent que quand des citoyens s'intéressent à une question, travaillent avec des scientifiques, et que tous ces acteurs ont une autonomie, une indépendance pour construire des enquêtes collectives. Alors là, je m'appuie sur un philosophe que moi j'adore, qui est John Dewey, qui a montré très tôt, au début du XXe siècle, comment la construction des problèmes publics et la démocratie elle-même dépendaient des capacités d'enquête des acteurs concernés, qui se saisissent d'un problème et qui changent parfois les termes même de la problématique. Là, on a des solutions qui s'ouvrent. Et on sort de cette espèce de cauchemar qui, effectivement, la multiplication d'empilement d'institutions qui ne pensent qu'à la communication, et c'est vrai aujourd'hui malheureusement des agences sanitaires. Et donc on a, au lieu de tabler sur les capacités d'apprentissage et de démultiplication des expériences participatives, on a en fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on fabrique des paniers de crabes et on verrouille au maximum les accès au savoir. Et pour moi, c'est là qu'il y a vraiment des choses à reprendre, qui ont déjà été constituées, qui sont très anciennes. L'exemple qu'on a eu sur la science participative en Afrique, on voit bien, on a besoin de forces, etc. Et ça produit toujours des savoirs et des connaissances. Et là, il y a vraiment une dimension que je trouve qu'il ne faut pas rater et qu'il faut construire. Je finis sur une enquête qui a été faite à l'étang de Berre, à Fos-sur-Mer, par Barbara Allen et son équipe, qui justement a transposé en Europe des techniques d'enquête qu'elle avait appliquées sur le Mississippi, sur des autour de communautés exposées à des risques chimiques. Et évidemment, en faisant participer les habitants des Tanber et de Foss, qui jusqu'à présent n'avaient pas tellement la parole sur les questions de santé,
elle a fait remonter des données.
Ces données ont été validées. Et il y a effectivement là une surincidence de maladies chroniques qui avait jusqu'à présent été complètement étouffée. Donc, les enquêtes collectives, la participation des citoyens, la production de savoir avec justement un horizon d'indépendance de la connaissance, avec des controverses évidemment. Il ne s'agit pas d'éliminer les controverses, mais il s'agit que ces controverses ne soient pas
Deviennent pas polémiques.
Voilà, exactement.
Ah, c'est ça. Sur cette question de principe de précaution, Stéphane Aurel, Sylvain Laurent, peut-être une réaction. Il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, justement, on vit quand même aussi des débats qui ressurgissent. Par exemple, la question des néonicotinoïdes est en débat. La question des perturbateurs endocriniens revient aussi dans l'actualité. Le sentiment aussi que finalement, il y a eu des décisions prises, que des scientifiques se sont exprimés. Et puis, finalement, ça revient quand même. Donc, Stéphane Aurel.
C'est très important de comprendre, en fait, que le principe de précaution est intimement lié à la fabrique de la connaissance. C'est-à-dire que la construction de la connaissance, tant c'est repousser les limites de l'ignorance et de l'incertitude. Donc tout ce temps de construction est un temps d'incertitude. Et c'est là que se loge la fabrique du doute. C'est pour ça que je préférais toujours utiliser l'incertitude par rapport au doute, qui est le doute industriel, quoi. La manufacture du doute, c'est l'instrumentalisation du cœur même, en fait, de la fabrication du savoir par des industriels qui veulent défendre leurs produits dont on découvre au fur et à mesure de cette construction de connaissances les dangers. Et aujourd'hui, le principe de précaution, ça s'est logé de façon très politique dans ce débat-là. C'est un peu le dernier joker contre le marché en roue libre, quoi. Francis Chettoreno a très bien fait de souligner, il y a l'aspect, c'est là qu'on arrive dans la dimension de quand on manifeste une inquiétude par rapport à une technologie, c'est forcément qu'on est un groupe heureux, des précautionnistes. Il y a une dimension presque machiste, en fait, qu'on souligne aussi dans cette critique du principe du précaution et qui remonte à très longtemps, puisqu'il remonte à Rachel Carson,
1962,
l'auteur du Printemps silencieux, qui est le livre qui a marqué en fait le début du mouvement environnementaliste. Et en fait, cette attaque sexiste de la précaution par rapport aux risques qu'on fait prendre aux populations et à l'environnement, elle est intimement liée en fait à cette histoire.
Sylvain Laurent, alors il faut aussi se dire que finalement la science, 2 et 2 ne font pas 4, hein, forcément en science, et que la science, elle n'est pas toujours à même de rendre un jugement ferme et implacable à un moment sur des questions, voilà, et que les lobbies peuvent s'engouffrer aussi, les firmes dans ces interstices. Est-ce que le principe de précaution ne serait pas justement cette solution qui permettrait de laisser avancer la science, mais si on a au moins des doutes sur la nocivité de tel ou tel produit?
Alors, 2 et 2 font 4, mais le problème, c'est que Monsanto finance rarement des études pour montrer que 2 et 2 font 4. Enfin, c'est le problème, le truc est là. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout aussi un pan de la science qui est une forme de science industrielle, alors qui est produite par l'industrie pour produire fabriquer des produits, mais aussi qui est produite par l'univers réglementaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même en permanence une science malade, à mon sens, qui tourne pour remplir des formulaires, cocher des cases, etc., où on sait très bien que si on prend un rat et qu'on l'expose à une surdose de nickel, ben, il va avoir une rougeur, mais bon, on va quand même remesurer pour être sûr que, voilà. Donc, il y a tout un bout de l'effort de recherche qui devrait, à mon sens, être réorienté vers des questionnements plus autonomes.
Et dans l'idée que 2 et 2 ne font pas 4, c'est juste dans l'idée que, par exemple, face à des perturbateurs endocriniens ou des polluants, des intrants chimiques, une personne va développer un cancer et une autre ne va pas développer, parce que chaque personne n'a pas la même barrière de détoxification. Et cela, c'est pas toujours facile à donner, à comprendre aussi pour une opinion publique, mais ça permet de semer le doute.
Oui, en fait, vous avez tout à fait raison, il y a une espèce d'interstice entre deux, entre effectivement des savoirs, on va dire, qui sont complexes à transmettre dans l'espace public, et puis toute cette boîte à outils qui est « c'est la dose qui fait le poison », enfin tout un tas de phrases comme ça qui en vérité tournent un peu en boucle, font croire aux gens qu'ils sont savants, mais finalement ne débouchent sur pas grand-chose, quoi. Et donc entre ces deux-là, il y a la sensation d'être savant et en même temps on dit des choses fausses au nom de la science. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que le principe de précaution, il va contre des gens dont c'est le métier, au contraire, de vendre du risque, en fait. Typiquement les assureurs. Si je suis assureur, j'ai besoin que vous preniez quand même des risques, parce que je vais vous assurer sur ces risques. Et moi, je vais vous vendre le fait qu'on va contrôler le risque, en fait. On va contrôler la probabilité que ce risque survienne. Et donc là, c'est tout le discours qu'on retrouve, c'est Kessler, Eval, etc., sur la société du risque. Finalement, est-ce qu'une toutes les sociétés humaines ne sont pas basées sur une part d'aléas qu'il faut accepter, de risques qu'on peut contrôler, parce que on a les probabilités, on sait qu'un ouragan, il a tant de chances d'arriver, etc. Donc on peut quand même continuer à fabriquer des maisons qui tiennent pas bien. Donc là, il y a toujours toute une industrie de fabrication du doute qui est pas complètement celle du tabac, mais qui est celle de la promotion de l'idée que le risque devrait être acceptable, parce que d'ailleurs c'est un business. On va assurer les gens par rapport à ça. Voilà.
Francis Chateau-Renaud.
Pour compléter, je pense que il y a trois piliers qui auraient dû d'ailleurs fonctionner sur la crise là sanitaire, qui n'ont pas fonctionné. C'est une des fautes graves de la part des gouvernants et ça se paiera un jour ou l'autre. Il y a la prévention. La prévention, ça veut dire qu'on connaît le danger. Donc on a les moyens d'éliminer parce qu'on a les connaissances. Effectivement, ils ont fini par être stabilisés. Donc il y a plus tellement... L'amiante, c'était scandaleux pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, on avait tous les éléments pour le faire. On n'était pas dans la précaution. On connaissait depuis très longtemps les dangers de l'amiante. La précaution, on l'a dit, c'est faire face aux incertitudes. Donc investir dans la recherche, ouvrir le débat, voir les enjeux d'acteurs, qui a intérêt à ceci, etc. Donc effectivement, mettre sur la table les intérêts. Qu'ils soient pas derrière, planqués, derrière des vérités, des pseudo-vérités, etc. La dose ne fait pas le poison, c'est clairement montré maintenant par plein d'études sur les perturbateurs endocriniens. On sait pourquoi en plus maintenant. Et il y a la préparation. La précaution, on sait pas encore et il faut prendre des mesures transitoires. La préparation, c'est qu'on sait que ça finira par arriver. L'incertitude, c'est quand, où, comment, l'intensité, etc. Et donc le preparedness, c'est aussi très important. Ça veut dire qu'au fond, il faut avoir les trois piliers. Et donc ça veut dire construire des sociétés intelligentes, ça veut dire où tous les acteurs sont partie prenante de cette construction pour éviter des situations comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a quand même un truc qui est quand même complètement dingue. Alors c'est vrai que la Chine a l'air de s'en sortir de manière... Il faudra que les spécialistes de la Chine nous expliquent comment ça fonctionne. On a peur parfois de la solution chinoise en l'occurrence, mais visiblement, enfin sauf s'ils ont complètement grugé sur l'ensemble des données, ils ont contrôlé leur truc... Et quand on regarde l'évolution partout dans le monde, sauf en Chine, on s'est dit, il y a un truc. Bon, là, il y a des choses à regarder parce que tout ça est très politique. Et c'est pour ça que les connaissances, elles sont en amont, dans la méthode et en aval, toujours prises dans des champs de force. Et je crois qu'il faut arrêter d'appeler ça du relativisme. C'est simplement du réalisme pratique. Les sciences sont prises dans des rapports de force. Et bon, ce livre ne fait que le démontrer une fois de plus.
On arrive au terme de cette émission. Yves Siama, allez, juste pour terminer sur une touche positive, une solution selon vous ?
Enfin, moi, je voudrais quand même dire que l'idée que la précaution soit anti-scientifique, c'est absolument incroyable d'en être arrivé là dans le discours. Non, moi, je pense qu'il faut plus de science dans la culture, dans les médias, un peu partout, et que cette science doit justement nous servir à analyser la technologie, les technologies qu'on nous propose, et à prendre plus de précautions.
Francis Chateau-Renaud, vous direz pas non à l'éducation, à l'instruction, médias, engager la science participative.
Non seulement ça, mais je dirais qu'il faut que dès les premières phases de l'apprentissage, il y ait un apprentissage de l'enquête collective. Il faut contrebattre les tendances justement à la version cynique du monde où on ne peut rien par l'action, et surtout apprendre à bien différencier les moments de controverse des moments de procès, de polémique. Et ça, tout le monde a des apprentissages à faire parce qu'on bascule très vite. L'ad hominem, c'est peut-être le plus connu, c'est-à-dire quand on commence à s'attaquer aux personnes et non plus aux choses et aux faits. Et là, il y a vraiment un apprentissage très précoce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir quand même des discussions à un moment donné.
Et ça génère une violence dont on n'a pas forcément besoin, hein, c'est voilà. Ça. Merci à tous les quatre, merci Stéphane Aurel, Sylvain Laurent. Je rappelle qu'avec Stéphane Foucard, vous avez donc écrit « Les gardiens de la raison », un livre tout juste paru à la découverte. Francis Chateau-Renaud, « Alerte et lanceur d'alerte », un livre paru dans la collection « Que sais-je » de Humensis. Yves Siama, le livre Le changement climatique, une nouvelle ère sur la Terre, livre paru chez Larousse. Et puis j'en profite aussi pour vous annoncer la journée spéciale Ce que le Covid fait à la science. Ce sera demain sur France Culture avec une très belle programmation à l'occasion de la fête de la science. Et puis si vous êtes du côté de La Rochelle, ne ratez pas le festival Terre et Lettres qui commence ce mercredi, qui se déroule jusqu'à dimanche sur le thème écologie ou catastrophe, comment agir. Et puis bien sûr, toutes les informations, vous les retrouverez sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute à votre disposition. Mardi prochain, nous serons en compagnie de Laurent Fabius et de Camille Etienne, étudiante de Sciences Po engagée pour le climat. Mais vous restez sur France Culture, bien évidemment, suite de vos programmes, avec dans quelques minutes le journal de la rédaction.